Chapitre 11. Une Dalila du peuple. De nouveau une nuit sanglante se passa à Parcani. Les brigands avaient enlevé le père Pistian et l'avaient traîné dans l'antre de la hyène, où tout d'abord il partagea les faveurs de Sarolta, puis dut les payer des plus affreux tourments et enfin de son propre sang. Après son horrible bain, la princesse, drapée dans sa fourrure sombre, s'étendit sur le sofa et se fit frotter par la vieille Halka à l'aide de mystérieuses essences. « Maintenant, ma colombe, murmura la sorcière, te trouves-tu satisfaite de l'emploi de bons moyens? En ressens-tu les effets vivifiants et rajeunissants ?»« Certainement, et je t'en suis reconnaissante. J'ai en toi la plus grande confiance du monde, répondit Sarolta, la dévisageant d'un air sombre. Mais que signifie cela? Fit la vieille. Plus ton corps est fleurissant de nouvelles jeunesses, et plus ton âme est envahie par de puissantes ombres. Tu n'es pas contente? C'est vrai, Halka, répondit la hyène avec un soupir. L'amour réclame ses droits, j'aime à la haine et j'aime vainement. Serait-ce possible? C'est l'exacte vérité, murmura Sarolta. J'aime Emmerich von Berthlemy depuis que je l'ai vu et lui me méprise. Qui t'a dit ça? Je lui ai offert ma main. Et il a repoussé, fit la vieille avec un rire malin. Crois-le bien, car tu dois connaître les hommes. Donne-lui le fouet. « Il te baisera les pieds. »« Mais il est trop tard pour tenter l'épreuve. »« Mais fais-le saisir, ma pouponne !» s'écria la sorcière. « Et nous verrons alors si nous ne pourrons l'apprivoiser, le jeune étourdi. »« Eh bien, tu as raison, Halka, oui. Nous allons faire ça, » répondit la princesse. « Et Yula, est-il encore au château ?» « Oh, certainement, ne lui as-tu pas déjà donné des ordres pour demain ? Ah, mais appelle-le donc !» La sorcière sortit et revint bientôt avec le bétiar. « Écoute, Eyula, commença la princesse, il te faut me livrer le jeune Henrik von Berthlemy dès demain. »« Oh, rien de plus facile, » répondit le brigand. C'est une besogne qui me plaît, d'autant plus que personne n'a tant fait pour entraver notre besogne. À chaque instant, il part pour Petsch et va se plaindre au gouvernement du comitat, qui dit-il est trop tiède et ne m'apporte pas suffisamment de sévérité ni de vigueur à notre répression. Il vous faudra le martyriser d'une façon exemplaire, pour moi. Mais comment veux-tu t'emparer de lui, sans qui Sarolta? Il doit être sur ses gardes. Je connais une servante nommée Oursa, reprit ce brigand, qui nous a souvent déjà rendu service. C'est une méchante et libertine petite femme, pour tout dire, mais belle et rusée comme une couleuvre. Elle nous livrera contre bons écus sonnants, cela s'entend. Mais comment ça? Mais c'est sa maîtresse. « Une pareille créature !» murmura Sarolta. « Et il me méprise !»« Oh, je vais parler moi-même à cette fille, Eyula. Conduis-moi à elle sur le champ. » La fille vivait avec sa vieille mère au milieu de la Pousta, dans la Xarda, presque en ruine, où elle débitait de l'eau de vie et du vin et faisait la cuisine pour qui le lui demandait. Toutes sortes de gens entraient chez elle, des colporteurs, des juifs en route pour un marché, des pandours, des tziganes, des filles publiques ou des voleurs. Elle était habituée à se lever à n'importe quelle heure, et cela ne surprit en aucune façon que l'on vint frapper à sa porte après minuit et que trois hommes masqués et armés de pied en cap pénétrassent chez elle et se fissent servir un bon coup à boire. Lorsqu'ils eurent pris place et qu'elle fut allée chercher une bouteille de vin vieux qu'elle mit devant eux, l'un des voleurs, qui, à juger par sa mine et par ses vêtements, paraissait le plus jeune et le plus distingué de la bande, posant son bras sur sa hanche, dit « Ma belle enfant, pourquoi veux-tu me faire un plaisir ?»« Mais pourquoi pas ?» répondit la fille. Une brûlante et vraiment belle hongroise, mais dont les traits portaient le sceau de la plus basse débauche. Là-dessus, elle considéra son interlocuteur, tout en laissant glisser sa forte main sur la large fourrure dont son attila était richement brodé, et lui vint à la pensée que la personne qui se trouvait devant elle ne devait pas être un voleur, mais quelque riche et beau jeune homme. Et qui te paie bien et te fait encore un présent par-dessus, doit-elle gentiment reçu, oursa ? S'écria un des compagnons du beau jeune homme. Eh bien, que me voulez-vous alors ? Fit en riant la belle et mauvaise créature en s'asseyant sur le genou de l'homme à la jaquette de fourrure. Voulez-vous coucher avec moi ? Tu es une belle fille, oursa, répondit ce dernier. Mais cela ne me va pas. Je veux mieux que cela. Il te faut donner rendez-vous pour la nuit prochaine à ton amant, le jeune Bethlémy, et me céder la place. Ben, cela vaudra peut-être mieux, fit malicieusement la cheville. Bien sûr, ça, car moi aussi je suis une femme. Vous voulez rire ? Non, non, je ne plaisante pas. N'as-tu encore jamais entendu parler de la hyène de la Pousta ? Boursa se leva d'un bond et s'enfuit dans un coin en poussant un cri. Allons, ne t'effraie pas, dit Saolta, en se prenant en suivant Ursa. Oui, oui, c'est moi, je suis cette terrible femme dont toute la Hongrie parle en tremblant. Mais malgré cela, nous resterons les meilleurs amis du monde, si tu consens à me livrer Bethlémy. Mais qu'en voulez-vous faire ? Demanda Ursa. Oh, m'amuser un peu avec lui, et puis... Le tuer ? Oui, tu l'as dit. La fille réfléchit, puis demanda. « Mais que me donnez-vous à moi ?»« Oh, 20 ducats sur le champ, » répondit Sarolta, « ainsi que ce bracelet. » Elle retroussa la manche de sa jaquette de fourrure et prit à son bras un cercle d'or au centre duquel scintillait un rubis et le posa sur celui de la fille. Puis elle dit... « Et 20 autres ducats seront à toi quand tout sera terminé. »« C'est bon, » soupira la fille, tout en considérant l'étincelant bracelet. « Je ferai ce que vous demandez. » La nuit suivante, Bethlémy se rendit effectivement à cheval à la Xarda et trouva, assis dans la salle de la taverne, la vieille mère d'Oursa ainsi que 2 inconnus. Comme il entrait, la vieille se leva et lui chuchota à l'oreille qu'Oursa l'attendait dans sa chambre à coucher. Il n'avait qu'à s'y rendre. Mais quoique sur un ton bas et poli, elle s'arrangea pour que l'on entende de chaque mot. Pour que Bethlémy savait qu'Oursa ne permettait jamais aucune plaisanterie sur ses amours, il quitta sur le champ l'auberge, remonta à cheval et se donna l'air de reprendre son chemin. À quelques 100 pas de la Xarda, il revint vers la taverne, attacha son cheval à un saule et, passant par derrière la Xarda, grimpa à l'étroit et raide escalier. À peine avait-il posé le pied sur le seuil de l'obscure pièce qu'il se sentit saisir par 2 bras puissants avec une vigueur qu'il n'avait jamais jusqu'ici rencontrée chez Oursa. Par 2 bras, qui, avant même qu'il pût reprendre haleine, l'entraînèrent avec un élan passionné et le collèrent sur une superbe gorge, tandis que 2 lèvres brûlantes de désir se collaient à sa bouche. Comme les étoiles commençaient à pâlir au firmament, et que les premiers rayons blafards de la lumière du jour commençaient à jeter leur lueur blanche par la chambre. Barthélemy, tout en embrassant voluptueusement la femme, dit bah, « Maintenant, il faut nous séparer. »« Jamais, Barthélemy, » répondit une voix qui lui parut étrangère, et que cependant il lui sembla tout aussi que tout reconnaître, bien que ce ne fût pas la voix d'Oursa. « Jamais, » reprit la voix, « tu es à moi tout jamais, ou la mort, si tu préfères. »« Mais qui es-tu ? » murmura le jeune gentilhomme. « Qui parle ainsi ? Oursa, où es-tu ? » « Je ne suis pas Oursa, mais celle que tu viens d'aimer et d'embrasser, » cria la femme à son côté. Puis elle se mit à lancer un éclat de rire folâtre. « Toi, mon Dieu ! » balbutia Barthélemy. « Cette voix, serait-ce possible ? » ?»« Oui, je suis celle que tu as méprisée et qui t'aime encore, » fit la femme avec un calme majestueux. « Sarolta, princesse Parcani !» Barthélemy, épouvanté, recula de quelques pas. « Je vais être franche avec toi, » poursuivit la princesse. Là-dessus, elle se leva, lentement, chaussa une paire de pantoufles garnies de fourrure et s'enveloppa de sa pelisse de zibeline. Puis elle reprit. « Je t'aime et veux te posséder à tout prix. Et pour cela, je suis déterminée à te tuer plutôt que de t'abandonner à une autre femme. Me comprends-tu, mon ami ?» « Je comprends que j'ai été trompé et trahi d'une façon odieuse. »« Vendu serait l'expression la plus propre, » fit railleusement Sarolta. « Tu n'étais jusqu'ici que l'amant d'une vulgaire fille de joie à qui tu t'unissais dans cette chambre. Eh bien, elle t'a vendu à moi, si bien que tu m'appartiens comme l'esclave que j'aurais acheté au marché. »« Épouvantable !» s'écria le jeune seigneur. « Reste auprès de moi, » continua la princesse. « Je t'aime, résigne-toi à ton sort. Je pense qu'après tout, il n'est pas si terrible qu'il semble te paraître. Ne suis-je pas riche et distinguée ? Ne suis-je pas belle ? Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue, » s'écria Barthélemy. « Et cependant, je ne puis pas t'aimer. Il y a quelque chose dans ton visage qui m'éloigne de toi. » Le signe de Caïn semble imprimé sur ton front. Tes mains paraissent tachées de sang. Non, non, je ne puis t'aimer. Essaie, reprit la belle femme. Je t'en prie, je t'aime tant. Je n'ai jamais aimé personne comme toi. Elle se leva, posa son bras sur son cou et l'embrassa. Il ne s'éloigna pas d'elle, mais demeura muet. « Viens avec moi, Parcani, » continua-t-elle. « Oublie la misérable qui t'a trahi. Sois à moi. Essaye seulement, pour un court espace de temps, une semaine, un seul jour. »« Non, non, » répondit Barthélemy, « pas même une heure. Ta beauté pourrait enivrer mes sens, alors que mon cœur t'abhorrait. Non, oh, non, non, je ne veux pas t'aimer. » À ce même instant, Ioula parut sur le seuil. « Le jour commence à poindre, » cria-t-il. « Hâtez-vous, princesse, autrement nous allons tomber entre les mains des pandours. »« Mon Dieu !» s'écria Barthélemy. « Oh, mon pressentiment était bien fondé. Je te connais, scélérate. Tu es le chef de cette bande sanguinaire. Tu es la hyène de la Pousta. » « Et si je l'étais, » reprit Sarolta, « c'est toi qui m'aurais fait ainsi. Je te le demande une dernière fois. Veux-tu être à moi, non pas mon mari ni mon amant, seulement mon esclave, que je foulerais aux pieds, ou bien veux-tu mourir ?»« Je préfère mourir, » s'écria Barthélemy. « Laissez-le-moi, cet arrogant garçon, » dit Ioula, « je lui rendrai la mort assez dure. » « Enlève-le, » répondit Sarolta d'un air indifférent qui fit frissonner Barthélemy, et fais de lui ce que tu voudras. » Elle lui tourna le dos, tandis qu'Eyoula et ses compagnons jetaient Beth-Lémi à terre, le ligotaient et l'entraînaient dehors en lui adressant toutes sortes de grossières plaisanteries. Chapitre 12. Dans la fourmilière. Devant Laxarda, les brigands hissèrent leurs prisonniers sur un cheval, l'y attachèrent solidement et s'enfuirent avec lui à travers la pousta. Arrivés dans une forêt de chênes, ils y firent une halte d'un couple d'heures, allumèrent du feu et bivouaquèrent autour. Ils paraissaient attendre quelqu'un. Ils prolongèrent donc leur halte d'une heure. Tout à coup, le galop d'un cheval résonna dans le lointain, et bientôt Salolta elle-même en descendit. Elle avait de nouveau revêtu des vêtements masculins. De hautes bottes, une culotte noire collante et une sorte de petit attila garni de ziblines et orné de brandebourgs d'or. Sa belle tête au visage mat était relevée par une kutchma de ziblines surmontée d'une aigrette de plumes de héron. L'un des brigands s'empressa de tenir son cheval, tandis que légèrement elle sautait à terre, puis s'approchait du feu. Orsa, dépêchez-vous, cria-t-elle. Il est grand jour et les pandours chevauchent sur la pousta. Sur cette injonction, deux brigands arrachèrent leur captif de cheval, le jetèrent à terre comme une bête, lui lièrent ensuite les mains à l'aide d'une longue corde, puis le traînèrent comme un paquet dans la forêt. Au cours de ce bref mais douloureux calvaire, la tête de l'infortunée portait à tout instant sur les racines noueuses que les grands chênes avaient jetées autour d'eux, ou sur quelques-unes des grosses pierres coupantes émaillant les sentiers de la forêt. Il était affreusement défiguré et le sang ruisselait de son pauvre visage au moment où ses tortionnaires firent halte près d'un tronc d'arbre abattu, dans lequel une république d'industrieuses et laborieuses fourmis avait installé son siège. Les noirs petits insectes grouillaient tout autour, cherchant la chaleur du soleil, peut-être aussi à ravir un morceau de butin à la tribu de fourmis voisines. Les brigands placèrent Beth-Lémi sur la tête en plein dans le milieu de la fourmilière et appuyèrent son corps à une jeune souche de chêne qui avait poussé tout auprès du tronc pourri, puis l'y lièrent solidement. La belle hyène assistait à l'opération et donna sa plus vive approbation à l'atroce et infernale invention. Quand la cruelle besogne fut terminée, l'inhumaine se rapprocha et railla son impuissante victime dans les termes les plus horribles. À ce moment, Oursa, échappé en hâte de Laxarda, arriva sur les lieux. Les pandours étaient sur la piste des brigands. Quant à elle, elle s'était vivement décidée à enfourcher le cheval de Beth-Lémi et était accourue pour les prévenir, plus pour empêcher qu'on la soupçonnât de trahison que parce qu'il lui importait de sauver les farouches compagnons. « Mais que faites-vous ici ? » fit-elle étonnée dès qu'elle aperçut Beth-Lémi dans son étrange position. « Nous aidons le noble seigneur à gagner le ciel, » répondit Eyoula. « Mais comment ça ? » ?»« Mais ce moyen est-il si nouveau pour toi, Oursa ?» demanda un autre brigand. « Mais t'as vu que la chose a dû arriver assez souvent auparavant par la pousta. » « Oh, je la vois pourtant pour la première fois, » dit la fille, contemplant son amant trahi avec la curiosité la plus froide et la plus cruelle. « Viens alors, je vais t'enseigner quelque chose que tu ne connais pas, » répondit Eyoula. « Vois bien, ma fille. Toi, ceci est une fourmilière dans laquelle nous avons fourré le cavalier. Aussitôt que nous aurons quitté les lieux, les chers petits insectes le verront sûrement pour la première fois, et procéderont avec lui exactement comme avec ce bloc de chêne qu'ils ont complètement rongé. Et au lieu d'habiter un vulgaire bout de bois, ils établiront leur domicile dans un beau crâne noble. « Mais c'est affreux !» murmura Oursa sur un ton d'indifférence glaciale. « Pour lui, peut-être !» fit le bétiard d'un air moqueur. « Il doit même avoir déjà un léger mal de tête. J'ai entendu une fois un moine que nous avions traité ainsi jeter des cris de vrai possédé. C'est une bonne plaisanterie. Oh, c'est gros pitié que nous puissions entendre celui-ci. Et en combien de temps la mort survient-elle ? Demanda la fille. Oh, c'est longtemps, répondit le brigand. 2 ou 3 jours. Tu es un maître homme, s'écria Sarolta. Voici pour ton heureuse et ingénieuse trouvaille. Elle prit une pleine poignée de ducats et la glissa dans la main du bandit, puis elle ajouta. Elle est maintenant à cheval, autrement nous serions nous-mêmes en danger. En un clin d'œil, tout le monde fut en selle et se mit à chevaucher l'un après l'autre. Bethlémy se vit seul, livré sans espoir aux pires tortures, à la plus affreuse des morts. Il sentit les fourmis, d'abord une par une, puis par véritables troupes, monter et descendre le long de son visage comme conduite par un guide, puis elles se mirent à pénétrer dans ses oreilles, dans son indicible désespoir, et il se mit à faire ce qu'il n'avait pas fait depuis de longues, bien longues années. Il se prit à prier. Il versa des larmes devant Dieu, non pas pour sa délivrance, mais pour son salut et une prompte mort. Soudain, des pas se firent entendre, qui se rapprochèrent de plus en plus, et enfin Oursa parut devant l'infortuné. Elle le tapota légèrement de sa main ouverte sur le visage et dit en riant « Maintenant, comment vas-tu, Emmerich ?» Bethlémy s'obtut. « Serais-tu encore assez fou pour m'aimer ?» dit. « Tu m'as vendu et trahi, Oursa, et repayé mon amour d'une ingratitude sans bornes, » répondit-il sur un ton plein de douceur. « Mais je te pardonne. » « En vérité ? » fit-elle en riant. « Oui, je te pardonne. »« Ah, parce que tu penses que je vais te rendre la vie. »« Oh, je ne désire plus vivre, » continua Bethlémy. « Après que toi, que j'ai tant aimé, m'as livré à mes ennemis, la mort m'apparaît comme une amie. » Mais je te prie, si ton cœur conserve encore quelque compassion et quelque humanité, tue-moi sur le coup. » La fille se prit de nouveau à rire, et tout en riant, tira un long couteau de sa ceinture, puis trancha les liens qui ligotaient son amant. Il était libre. Aussitôt, Oursa l'aida à se dégager et à se débarrasser des fourmis dont sa tête grouillait. « Je te remercie, Oursa, » dit Bethlémy, surpris et touché à la fois de la générosité de sa traîtresse amante. « Oh, tu n'as pas à me remercier, » fit-elle en riant. « J'ai ce qui reste de mon argent dans la poche et te l'ai apporté. Mais maintenant, il nous faut prendre une prompte résolution et l'exécuter vivement. » Autrement, avant le coucher du soleil, je serais la victime des brigands. » Elle embrassa son ancien adorateur d'un air moqueur et disparut aussitôt entre les taillis. Dernier chapitre 13. Démasqué. La fille rentra vers le soir dans Saxarda. Comme elle pénétrait dans la salle commune, dans laquelle sa mère versait à boire à un homme vêtu d'un bunda velu, elle passa la tête haute et sans crainte, un sourire railleur errant sur ses lèvres. Elle savait que l'homme qui semblait vouloir la sonder du regard appartenait à la bande de la Hyène et qu'il faisait l'espion. Mais cela ne lui fit éprouver aucune angoisse. Elle s'assit auprès de lui et se mit à fredonner une chanson un peu leste. « As-tu déjà appris, Oursa ?» fit le bandit. « Que Bethlémy, que vous avez plongé ce matin dans une fourmilière, s'en est échappé d'une façon extraordinaire et miraculeuse ?»« Oui, je sais qu'il s'est sauvé, » répondit Oursa du ton le plus indifférent du monde, « mais je veux voir là rien de bien extraordinaire. C'est moi-même qui l'ai délivré. »«
Toi, mais sais-tu bien ce que tu as fait là ?» dit le brigand, dont l'étonnement était loin d'être fin.
Par-dessus l'épaule de l'homme, la vieille lança à sa fille un coup d'œil signifiant.
« Sois prudente, mais celle-ci n'y prit garde. »«
Mais ne crains-tu pas la vengeance de la Hyène ?» appuya le bandit. « Oh, je me ris d'elle, » dit Oursa. « Cette nuit est la dernière que je passerai sous ce toit. » Demain, de grand matin, ma mère et moi quitterons non seulement ces lieux, mais notre patrie et irons avec Bethlémy, qui me doit la vie et même plus que tout, en Amérique.
« Oh, cela tu fais bien, » répondit le brigand en souriant d'une façon étrange et sinistre.
Là-dessus, il se leva, paya son écho et s'éloigna rapidement.
« Mais qu'as-tu fait ?» dit la mère, « nous sommes perdus. »
Non, au contraire, je sais fort bien ce que j'ai fait, répondit tranquillement la fille. La nuit venait de tomber. La vieille était montée dans la pièce au-dessus et priait, tandis qu'Oursa fredonnait et chantait à plein gosier. Tout à coup, on frappa à la porte.
Qui est là ?
Demanda la fille.
« Quelqu'un qui paiera sa consommation, » fut la réponse.
« Oh, je t'attendais. Tu es Yula, » répliqua Oursa. « Je t'attendais, toi et les tiens. Car en vérité, c'est moi aujourd'hui qui vais vous régaler. »
« Ouvre, » firent aussitôt 20 voix.
« Oh, volontiers, » répondit Oursa d'un ton narquois. « Mais vous êtes donc si pressé ?»
À l'instant même où la porte s'ouvrait, et où Eyula, la face noircie, paraissait sur le seuil, un coup de feu partit de la salle qui l'étendit raide mort sur le plancher. Ce coup de fusil était un signal pour les pandours, dissimulés dans la xarda, de faire par toutes les fenêtres et par toutes les lucarnes du toit feu tous ensemble sur les brigands. Ceux-ci, déconcertés par une attaque aussi soudaine, reculèrent et cédèrent la place, laissant la plupart d'entre eux tués ou blessés. Mais ils revinrent bientôt, assiégeant la misérable hutte de tous côtés. Quelques-uns parvinrent même dans la salle de l'auberge, où ils livrèrent aux pandours un sanglant corps à corps. Mais bientôt on entendit le galop des hussards réquisitionné de la ville voisine par le juge suprême du comitat et qui était caché dans le bois voisin. Les brigands se trouvèrent pris entre deux feux. Ils prirent la fuite, poursuivis par les hussards qui en sabrèrent la plupart et prirent 5 prisonniers. 2 des brigands réussirent seuls à se sauver. Parmi ces derniers se trouvait le chef de cette bande redoutable, la cruelle Hyène de la Pousta. Les brigands, faits prisonniers, conformément à la cruelle mais simple et pratique méthode du commissaire Stéphane Mad, furent sur le champ mis à la torture jusqu'à ce qu'ils avouassent que le chef de leur bande n'était autre qu'une femme, et cette femme, la princesse Sarotta Parcani, information fournie précédemment par Oursa. De là, le commissaire se rendit en hâte au château de la princesse, qu'il avait, comme précédemment à l'Axarda, prudemment fait entourer. Là, il s'enquit des raisons de l'absence de la princesse. Comme il se proposait d'interroger les 3 femmes de confiance, Alka, Iela et Elsabeth,
Il voulut explorer le château, et dans la petite pièce de la tour, dont il fut obligé de faire enfoncer la porte, il ne découvrit que leurs cadavres. Elles avaient mis fin par le poison à leur existence criminelle. Immédiatement, des express, des hussards et des pandours furent expédiés dans toutes les directions pour capturer la femme sanguinaire qui avait ordonné et organisé toutes ces atrocités. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on fit jouer le télégraphe. Le tocsin résonna dans tous les villages. Les gens du pays, exaspérés contre les brigands et leurs chefs, s'armèrent de faux, de fléaux et de fourches. Hommes, femmes, enfants se mirent à parcourir forêts et poustards, champs et jardins. Dès le matin parut la grande armée du comitat. Vers midi, une troupe de paysans découvrit des taches de sang auprès d'un marais et aussitôt ils l'entourèrent et le fouillèrent. Soudain éclata un coup de feu suivi d'un grand cri. Chacun de courir aussitôt dans la direction d'où s'étaient élevées flammes et fumées que chacun avait vues. Là, on découvrit un jeune homme, dissimulé dans les roseaux, qui menaçait encore de son revolver un paysan gisant auprès de lui et sur qui il venait de tirer un coup de pistolet. « Arrière où je tire ?» s'écria ce jeune homme d'une voix qui, on le sentait, avait l'habitude du commandement. Mais bientôt il reçut sur les épaules un coup de fléau qui l'étendit à terre. La foule se jeta aussitôt sur lui, lui arracha ses armes et lui lia les mains au dos. « Quelle belle capture !» fit un vieux paysan. « C'est la princesse de Parcanie. »« La hyène ?» demandèrent aussitôt 20 voix. « Elle-même !» affirma le vieux. « Mais venons la vie au comitat !» crièrent quelques personnes. « Mais que vous prend-il ? » s'écria alors le paysan. « Une pareille brute ne doit jamais, une fois prise, sortir vivante de nos mains. Elle est assez rusée pour nous envoyer au gibet. Il faut la tuer sur le champ, comme un fauve ou un oiseau de proie. Ah, le vieux a raison, rouons-la de coups jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus !» cria la foule en chœur. On sortit Saolta du marais. On lui arracha les vêtements et de tous côtés, on se mit à la frapper sans pitié à coups de gourdin. « Épargnez ma vie » s'écria-t-elle dans une angoisse mortelle. « Je suis riche, fort riche, je vous donnerai tout ce que je possède. » Les coups se mirent à pleuvoir de nouveau. Personne ne parut l'entendre. « Pitié, pitié !» s'écria-t-elle. « As-tu pitié de tes victimes, misérable ?» répondit le vieux paysan. « Tu es là, vous autres, sans la moindre merci !» Les paysans poursuivirent leur effroyable exécution. Saolta avait reçu plus de 100 coups et saignait par un nombre presque égal de blessures. Enfin, elle tomba évanouie. « Assez !» ordonna le vieux. « Elle vit encore ?» demanda une femme de paysan. « Précisément pour cela !» s'écria le vieillard. « Elle ne peut plus supporter les coups. » « Mais nous allons pendre son corps encore vivant !»« C'est ça, pendez-la !» cria toute la foule. En vain, Saolta poussait-elle les plus horribles malédictions. En vain, implorait-elle grâce. En vain, son angoisse mortelle et ses souffrances lui arrachaient-elles des larmes. Un jeune paysan lui appliqua un coup sur la nuque. Deux autres tombèrent ensuite et finalement, son corps se balança à la branche d'un aulne. Son agonie ne dura que quelques minutes, puis ce monstre féminin rendit sa vile âme. Alors les paysans détachèrent son cadavre, le jetèrent sur un tombereau à fumier et le conduisirent ainsi au comitat.